La Bibliothèque Orbitale, saison 2, épisode 7. Résumé de l'épisode précédent, la situation est politiquement grave et même électoralement désespérée. Tout le monde a encore en tête les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Sans surprise, Chevillard-Monplanton est arrivé en tête avec une avance considérable sur le président sortant, Pithiviers-Muralet. Mais ce qu'aucun expert n'avait prévu, c'est le score du troisième candidat, Frigulan Mignot-Robis, représentant du PIPO, le parti indépendant des Pitots authentiques. En obtenant près de 20% des voix, Frigulan Mignot-Robis a bouleversé l'ensemble de l'échiquier politique et s'est fait le porte-parole de ces millions de citoyens qui portent le deuil de Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, disparu dans les circonstances que l'on sait, ou plutôt qu'on ignore toujours. Pour les deux derniers candidats en lice, il est devenu primordial d'obtenir au second tour les voix de ces millions de citoyens qui ont voté pour le candidat du PIPO. Toujours prompt à réagir, le président Pithiviers-Muralet a proposé de rebaptiser l'avenue des Champs-Élysées avenue Pitou, d'ouvrir de nouvelles écoles de gladiateurs cosmiques et de faire de Solange Pitou, veuve de ce dernier, la prochaine Marianne. Son adversaire, Chevillard-Montemplon, a surenchéri en suggérant d'imprimer un billet de 15 euros à l'effigie de Pitou et de baisser la TVA sur les équipements de gladiateurs cosmiques. Le lendemain, Pithiviers-Muralet montait sur scène, arborant un magnifique t-shirt « Nous sommes tous des Pitous » et offrait un abattement fiscal de 25% à quiconque baptiserait son enfant, son chien ou son poisson rouge « Pitou ». Ce à quoi son adversaire a répondu en proposant la construction d'une statue de Pitou de 800 mètres de haut, statue qui serait bâtie à l'emplacement qu'occupe actuellement la tour Eiffel. Alors que le jour crucial de l'élection approche, les deux candidats ne cessent de rivaliser de propositions plus pitouesques les unes que les autres, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, bien embêté pour aller voter vu qu'il est coincé comme un con à bord d'une station spatiale russe abandonnée, a déjà commencé à fêter l'élection du candidat qui gagnera dimanche prochain, toutes les occasions étant bonnes pour déboucher un Pauillac vieilli en fût de chêne. Faute de pouvoir lire les professions de foi des deux candidats, il s'est rabattu sur les deux derniers livres de Thomas Day, Woman in Chains et Du sel sous les paupières. You can take it out of your Trois ans après This Is Not America, les éditions ActuSF publient un nouveau recueil de nouvelles signé Thomas Day, Woman in Chains. Un recueil thématique consacré pour l'essentiel aux violences faites aux femmes. En cinq nouvelles, dont trois inédites, Thomas Day effectue un survol de ce sujet à travers une série de récits situés aux quatre coins du monde. Ouvrière mexicaine victime de rites ancestraux, jeune africaine qui se rêvait créatrice de mode à Paris et se retrouve à tapiner dans un bordel de Francfort, occidentale qui fuit la civilisation pour échapper à son destin, villageoise victime de guerre en Afghanistan ou femme battue à Paris, les héroïnes de Thomas Day se débattent pour survivre dans un monde sordide qui ressemble quand même vachement au nôtre. Car si tous ces textes relèvent à des degrés divers du fantastique ou de la science-fiction, ils sont avant tout ancrés dans notre réalité, une réalité qui n'accorde aucune valeur à la vie de simples ouvrières dans les pays en voie de développement, qui condamne les femmes qui refusent de se soumettre aux normes, une réalité où les réseaux de prostitution prospèrent et où le viol est une arme de guerre presque comme les autres. Les nouvelles de Thomas Day n'ont rien de récit édifiant et encore moins larmoyant. L'auteur aborde son sujet avec brutalité, n'épargne rien au lecteur du sordide des situations qu'il décrit, sans jamais s'y complaire pour autant. Il observe, il constate, il rend compte d'une réalité. La plupart de ses protagonistes sont humains, même les plus monstrueux d'entre eux, et c'est ce qui les rend à ce point effrayants. Malgré la diversité des situations qui sont mises en scène, chaque nouvelle au sommaire de Woman in Chains fait écho aux autres, vient appuyer encore davantage sur la même plaie et rappelle au lecteur une vérité aussi inconfortable que concrète. Woman in Chains est un recueil éprouvant mais pertinent, désagréable mais indispensable. Après la violence de Woman in Chains, la lecture de Du sel sous les paupières, roman inédit qui vient de paraître en folio SF, est un moment d'une douceur incomparable, frais et pimpant à la fois. À des années-lumière du réalisme tragique de son recueil, Thomas Day nous trousse ici un récit d'aventure empruntant une grande partie de son imaginaire à celui du début du XXe siècle. Conte de fées rétro-futuriste, Du sel sous les paupières nous promène entre Saint-Malo, l'Irlande et Guernesey pour nous raconter l'histoire de Judy Kael, alias Lapache, un gamin de 16 ans qui va par amour se lancer dans une aventure rocambolesque. Reprenant et prolongeant une nouvelle parue il y a une douzaine d'années dans l'anthologie de Daniel Rich, Futur antérieur, Du sel sous les paupières se déroule dans une France parallèle où la Première Guerre mondiale ne s'est achevée qu'en 1920 et où les créations de Fritz Lang sont aussi réelles que les créatures du folklore irlandais. On ne s'étonnera pas de croiser dans ce monde quelques célèbres écrivains, scientifiques ou révolutionnaires, pas toujours dans les rôles dans lesquels on les attend. Mais avant d'être une fantaisie uchronique, Du sel sous les paupières est surtout une histoire d'amour, celle d'un petit vendeur de journaux et d'une marchande de fleurs en papier. Car on aurait parfois trop tendance à l'oublier, et ce roman tombe à point nommé pour nous rappeler que sous les litres de sang, de sueur et de sécrétions corporelles diverses qui coulent à flot dans son œuvre, Thomas Day est avant tout un grand romantique. Et dans le genre, il s'en tire plutôt bien. Même si le périple qui attend Judy Kael et ses compagnons n'a rien d'une balade bucolique, même si la mort est omniprésente, et même si ces années 20 sont par bien des aspects pires que celles que notre monde a connues, il se dégage de ce roman et de cet univers une impression de légèreté assez étonnante et tout à fait agréable. Sans être un grand roman, ni ce que Thomas Day a pu écrire de mieux, Du sel sous les paupières se lit avec un plaisir permanent. Ce serait donc idiot de passer à côté.
Just to be clever, I know. But for you.